Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 11 janvier 2017.
Au sommaire ce soir, Donald Trump a donné sa première conférence de presse depuis son élection.
Barack Obama a prononcé hier soir à Chicago son discours d'adieu.
La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement, un nouveau vice-président et Guillaume Soro reste au perchoir de l'Assemblée.
J-3 pour la Cannes, nous retrouverons à Libreville notre envoyé spécial Timothée Donangmaï.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et le sport, mais tout de suite, après, c'est le journal. Très attendue, la conférence de presse du président élu américain à quelques jours de son investiture. Donald Trump s'est exprimé sur son programme économique, sur ses relations avec la Russie et sur bien d'autres sujets. Pour en parler, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Anastasie.
Alors qu'a dit celui qui prêtera serment le 20 janvier prochain, celui qui sera le 45e président des États-Unis?
Eh bien Donald Trump est apparu très offensif sur le dossier russe et notamment le piratage informatique opéré par Moscou contre le Parti démocrate, le milliardaire américain qui reconnaît aujourd'hui l'implication de la Russie, ce qu'il a longtemps nié.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by.
Voilà, concernant le piratage, je pense que c'était la Russie, mais je pense qu'on a aussi été piraté par d'autres personnes. Donald Trump est revenu sur un précédent piratage de la Chine, par exemple. Sur sa prochaine relation avec la Russie, Donald Trump a assuré qu'il allait être ferme, mais qu'il s'entendait bien avec le président russe et que ce serait un atout pour les États-Unis et non un obstacle.
If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability.
Si Poutine apprécie Trump, je ne pense pas que ce soit un obstacle, mais un atout. La Russie peut nous aider à battre le groupe État islamique. Donald Trump a assuré que la Russie allait beaucoup plus respecter Washington avec Trump à sa tête. Le président américain élu a également réitéré sa position. Il va construire un mur à la frontière avec le Mexique et, selon lui, Mexico paiera sous forme de taxes, par exemple.
Et sur le plan économique, Nicolas?
Alors, il a réaffirmé qu'il souhaitait remplacer l'Obamacare, la loi symbole du président Obama sur l'assurance maladie. Il a notamment cité les polices d'assurance dont les prix ont fortement augmenté dans certains États, comme lors de sa campagne électorale. Donald Trump a également affirmé qu'il serait, je cite, « le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé ». J'ai été assez actif sur le plan économique pour le pays. Beaucoup de constructeurs automobiles vont construire sur notre territoire. Une grande annonce va être faite dans les prochaines semaines pour le Midwest. Vous avez vu hier Fiat et Chrysler. Alors, on parle également des entreprises américaines qui, si elles délocalisent, elles devront payer une lourde taxe frontalière selon le président élu américain.
Et sur les conflits d'intérêts, tous les conflits d'intérêts dont on l'accuse?
Eh bien, Donald Trump a affirmé ce mercredi avoir cédé le contrôle de la Trump Organization, hein, toutes ses entreprises, à ses deux fils, Eric et Donald Jr. pour la durée de son mandat, en promettant que cela permettrait d'éviter les conflits d'intérêts avec sa fonction présidentielle.
My two sons, who are right here, Don and Eric.
Mes deux fils ici présents, dont Eric et Don, vont diriger les sociétés. Ils les dirigeront de façon très professionnelle, ils ne m'en parleront pas. Sa fille Ivanka, a-t-il précisé, coupera aussi ses liens avec l'empire économique Trump en se concentrant sur son installation à Washington. À noter qu'il a salué la presse, il a dénoncé les faux reportages parus ces dernières heures à son encontre, mais a quand même réussi à avoir un échange verbal avec un journaliste de CNN.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Pineau. Et nous continuons, Gabi?
Oui, nous espérons avoir bientôt une analyse de cette première conférence de presse du président élu américain Donald Trump et avoir en direct, si possible, René Lake, le directeur de publication des sites CinéPlus.com et AbidjanPlus.com.
René Lake qui reviendra sur une ambiance très particulière quand même dans laquelle s'est déroulée la conférence de presse.
Oui. Alors, il faut dire, avant de revenir à Donald Trump, que le président américain Barack Obama a fait ses adieux à l'Amérique dans un discours prononcé hier soir à Chicago devant une foule enthousiaste. On écoute le compte-rendu d'Abdourahman Dia.
Monsieur Obama a d'emblée mis en exergue les progrès réalisés depuis 8 ans en disant que l'Amérique est aujourd'hui meilleure, plus forte.
Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'on sortirait de la grande récession, relancerait notre industrie automobile et entamerait la plus grande période de création d'emplois, si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre avec le peuple cubain, fermerions le programme d'armes nucléaires iranien sans un coup de feu, que nous mettrions la main sur le cerveau du 11 septembre, si je vous avais dit que nous allions gagner la guerre, la bataille du mariage pour tous, et que nous allions garantir le droit à l'assurance maladie pour plus de 20 millions de nos concitoyens, vous auriez dit que nous étions trop optimistes.
Barack Obama a axé son discours sur les menaces à la démocratie et les défis de notre temps. Il a exhorté les Américains à trouver un terrain d'entente, rappelant que la démocratie ne requiert pas l'uniformité, mais exige un sens fondamental de solidarité. Vers la fin de son discours, Barack Obama a cédé à l'émotion, mais s'il a craqué, c'était en rendant hommage à sa femme Michelle et à leur famille. Sous un tonnerre d'applaudissements, le président a ajouté à l'intention de ses filles Malia et Sacha, « De tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père. » Il passera les clés du bureau ovale à Donald Trump dans exactement 9 jours.
Et comme promis, nous allons entrer en contact maintenant avec l'analyste René Lake.
Bonsoir René Lake.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, tout de suite, vos premières impressions après cette première conférence de presse du futur président américain ?
Écoutez, il y a eu quand même un certain nombre d'informations qui ont été données. Je pense que la plus importante, c'est la première fois que Donald Trump dit clairement qu'il pense qu'effectivement, ce sont les Russes qui ont été à l'origine du piratage dont les États-Unis ont été la victime, hein, notamment le comité national des démocrates et une partie de la campagne d'Hillary, en tout cas en particulier le chairman de la campagne d'Hillary Clinton. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que c'est peut-être l'information la plus importante. Deuxièmement, il a également informé par rapport à la question du conflit d'intérêts qu'il avait décidé de prendre l'ensemble de ses avoirs et de les mettre dans un trust qui va être dirigé par ses enfants, hein, sous la responsabilité de ses enfants. Et ses enfants vont s'occuper, ces deux garçons en particulier, Eric et Donald Trump, vont s'occuper de ses affaires, de son business. Et que sa fille Ivanka, si elle vient à Washington avec son mari qui a été nommé à la Maison Blanche comme conseiller. Senior advisor, conseiller principal, ne sera pas du tout impliqué dans les affaires. Donc ça également, c'est une deuxième information qui était importante, puisque la question du conflit d'intérêts se posait de manière répétée par rapport à sa nouvelle élection. Voilà donc les deux informations majeures. Il y a peut-être, je sais que vous aurez d'autres questions, mais il y a aussi pas mal d'autres choses à dire, notamment par rapport à ses rapports avec les services de renseignement américains.
Et comment avez-vous vu, René Lake, la dynamique, les échanges entre le futur président américain et le quatrième pouvoir, ces gens qu'il va rencontrer pendant tout son mandat?
Écoutez, ça a été particulièrement, je dirais même violent, je pense que le mot n'est pas fort. Je ne pense pas avoir jamais vu un président avoir une telle altercation aussi directement avec une organisation de presse. Pendant la campagne, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges très, très violents même avec la presse, mais la presse en général, même s'il est vrai que 2-3 fois, il a interpellé notamment des journalistes de NBC. Mais là, il s'est attaqué directement et très violemment à CNN. Et cela a été assez surprenant. Et il a même à plusieurs reprises montré des signes d'impatience quand il dirigeait son regard vers le journaliste qui représentait CNN et qui était au premier rang de la salle de la conférence de presse. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est qu'il s'est senti particulièrement touché par cette information qui a été effectivement sorti hier par CNN, parlant d'un rapport particulièrement compromettant des services de renseignement américains sur des informations que les Russes détiendraient par rapport à Trump et avec lesquels il pourrait éventuellement lui faire du chantage.
Une information que le président élu a d'ailleurs rejetée et catégorisée comme étant fausse. Merci beaucoup René Lake. Je rappelle que vous êtes directeur de publication des sites CNE+ et abidjanplus.com. Vous étiez avec nous en direct depuis Washington.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau gouvernement ivoirien formé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est composé de 28 membres. La plupart des grands ministères restent inchangés, mais plusieurs poids lourds quittent l'équipe gouvernementale. Les détails avec Tatiana Mosso.
Les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Éducation nationale ou encore des Mines et de l'Industrie restent en place. Alain Richard Donaoui, le ministre auprès de la présidence chargé de la Défense, reste en fonction après les mutineries qui ont secoué le pays la semaine dernière. Les négociations avec les mutins doivent se poursuivre vendredi. Parmi les 14 sortants, Adama Toungara, ancien ministre du Pétrole et de l'Énergie. Afousiata Bambalamine à la communication et Rémi Alakwadio à l'environnement qui ont été battus dans leur circonscription aux législatives. Autre poids lourd sorti du gouvernement, Jean-Louis Billon, l'ancien ministre du Commerce. Il y a 7 nouveaux arrivants, dont Thierry Tano, le technocrate ancien banquier au pétrole, et Souleymane Diaroussaba, patron des banquiers ivoiriens à l'artisanat et au PME. Ce remaniement met un point final à la réorganisation institutionnelle après l'adoption d'une nouvelle constitution. À l'avenir, le vice-président sera élu en même temps que le président.
Au Kenya, première véritable démonstration de force de l'opposition, dont les principaux leaders ont officialisé aujourd'hui à Nairobi la formation d'une alliance baptisée NASA en vue de battre le chef de l'État Uhuru Kenyatta à la présidentielle prévue au mois d'août.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et nous passons tout de suite à la page économique présentée ce soir par John Lyndon.
L'année 2017 sera difficile pour les pays subsahariens en raison principalement de la chute des matières premières et de la faible croissance de la région. Dans un rapport publié hier, Standard & Poor's ajoute à ce décor morose le faible potentiel de croissance des marchés comme l'Europe et la Chine et une notation régionale moyenne qui s'est dégradée oscillant entre les catégories BB- et B spéculatives. La Guinée et le Togo ont obtenu des financements d'un montant total de 300 millions de dollars auprès de la Banque islamique de développement. Les deux pays utiliseront cet appui financier pour le développement des projets routiers. La Banque mondiale a légèrement abaissé hier ses prévisions de croissance autour du globe sur fond d'incertitudes croissantes sur la politique économique de la future administration Trump. L'institution reconnaît que certaines propositions du futur président américain pourraient doper la croissance mondiale, comme son plan massif pour investir dans les infrastructures. La Banque mondiale met en garde contre la menace de représailles commerciales qui risquerait de freiner la croissance mondiale.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec la CAN 2017 et la victoire de la Côte d'Ivoire en match de préparation.
À Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire a battu en amical l'Ouganda 3-0. Les buts des éléphants signés en deuxième mi-temps par Kodia, Zaha et Aurier. C'est le premier but de Wilfried Zaha pour les champions. C'est le premier but de Wilfried Zaha pour les champions d'Afrique en titre. L'ailier de Crystal Palace et ancien international anglais, âgé de 24 ans, vous vous en souvenez, a changé de nationalité après avoir représenté l'Angleterre à 2 reprises en match amical.
Et puis le dopage en ligne de mire de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Les présidents de 19 agences nationales antidopage estiment que la Russie devrait être exclue de toute compétition sportive, y compris du mondial de football qu'elle organise en 2018, tant qu'elle n'aura pas réglé son problème de dopage. Le président de l'agence antidopage américaine, Travis Tygart, a précisé au site spécialisé dans le suivi de l'olympisme Inside the Games que cette exclusion devrait donc également concerner le mondial 2018 de foot organisé, comme vous le savez, en Russie.
En France, l'actualité sportive, c'est la Coupe du Monde de handball.
La France accueille le championnat du monde de handball à partir d'aujourd'hui. Les Bleus sont favoris du tournoi qu'ils ont gagné à 5 reprises. Mais il faut se méfier des champions olympiques danois. Du côté de l'Afrique, Trois représentants, la Tunisie, l'Angola et l'Égypte. L'Égypte, championne d'Afrique en titre, aura fort à faire dans le groupe D où se trouvent le Danemark ainsi que la Suède.
Et on finit, Nicolas, avec le championnat de basket nord-américain, la NBA.
Malgré 29 points de sa star LeBron James, les Cavaliers de Cleveland, champions en titre, se sont inclinés 92 à 100 contre Utah, tandis que James Harden, avec 40 points face à Charlotte, a permis à Houston de l'emporter 121 à 114.
Merci, Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Gabi Dorsi dans votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour. Notre première escale ce soir, c'est en RDC.
Oui, Gabi, la RDC, ou le Rassemblement des forces acquises au changement, propose Félix Tshisekedi comme Premier ministre. La désignation suscite débat car le père de celui-ci, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, est désigné par l'accord du 31 décembre dernier comme le chef du Conseil de suivi de la transition, un organe de contrôle. Eddy Isango a joint à Kinshasa l'un des sages du Rassemblement, Lisanga Bonganga.
Nous venons de proposer l'honorable Félix Tshilombo qui s'était dit comme candidat du Rassemblement Premier ministre. Pourquoi nous l'avons proposé? Parce que la tendance générale et essentielle se dégage autour de lui en ce qui concerne toutes les composantes du Rassemblement.
La branche deux opposants du Premier ministre Badibanga qui refuse de signer l'accord, disant que l'accord de la Saint-Sylvestre sous la CENCO visait à satisfaire un seul homme ou une seule famille politique.
Nos amis, nos frères qui sont ministres aujourd'hui au gouvernement Badibanga ont toujours désigné l'honorable Vital Kamerhe comme leur chef de file. Le président Vital Kamerhe a signé cet accord. Il a aussi des ministres de son parti au gouvernement. L'opposition républicaine représentée par le professeur Bongongo a signé aussi cet accord. Ils sont aussi au gouvernement. Nous avons vu aussi la signature de l'honorable Steve Mikai qui est aussi membre du gouvernement. Je pense que mes deux frères ou trois frères ont des problèmes individuels. Mais quand cela me tient, le président du groupe parlementaire UDP s'est aligné. Le premier ministre Sami Badibanga n'est pas signataire, il ne peut pas signer cet accord, son nom ne figure pas. Nous, aujourd'hui, en tant qu'alliés, nous avons d'ailleurs proposé pour que les MLC puissent venir signer parmi les trois vice-présidents, en dehors du premier ministre, qui dit qu'on donne un poste pour les vice-présidents au MLC allié. On donne un poste à l'opposition de l'Union africaine et un autre poste à la majorité, les trois postes de vice-président. Je pense que ça serait au moins raisonnable. La société civile peut prendre le rapporteur ou tout ça. On n'a pas le temps à perdre pour des querelles pour aller de l'avant.
Est-ce que vous ne donnez pas raison aux MLC alliés qui disent que les rassemblements ne devraient pas avoir aussi les chefs du Conseil de suivi de la transition parce qu'il sera juge et parti. Parce qu'il y aura Tshisekedi père à la tête du Conseil de suivi de la transition et Tshisekedi fils Premier ministre.
Nous sommes donnés rendez-vous, majorité comme opposition, et même l'opposition représentée par Vital Kamerhe, pour que nous puissions mettre le président Tshisekedi là-bas, vu son charisme et vu ses compétences, ça pouvait nous aider à ce qu'on puisse aller vite aux élections sur le plan du contrôle et sur le plan du suivi. En concernant le contrôle, Madame elle sait bien qu'elle est députée et que le contrôle revient au Parlement. Même à l'Assemblée, nous avons des pères qui ont des enfants comme Cyprien, les femmes qui ont leur mari comme Cyprien. Tout ça, ça existe. Ce n'est pas ça le débat.
Les explications de Lisanga Bonganga, allié d'Étienne Tshisekedi et sage du Rassemblement.
Dans Washington Forum ce jeudi, la Côte d'Ivoire, une semaine pleine de rebondissements. Après la fin de la colère des militaires, les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. Alors les militaires sont-ils définitivement rentrés dans les rangs? Guillaume Soro, réélu à la tête de l'Assemblée nationale, et l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, nommé vice-président. La guerre de succession est-elle réglée pour de bon? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Amnesty International, dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, met en cause les auteurs présumés de crimes de guerre, notamment des homicides et des viols pendant le conflit en Centrafrique, lesquels sont toujours en liberté. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi, au micro de Félix Yepassis Zembro.
C'est exact. Il y a connu de tout le monde des gens qui ont été à l'origine des graves violations des droits de l'homme, eux et leurs hommes en République centrafricaine, qui sont en liberté, qui circulent même librement entre les États d'Afrique centrale et voyagent même allègrement dans les États où les Nations Unies sont pourtant représentées en République centrafricaine. La vérité, c'est que ces criminels connus agissent et opèrent en présence de forces internationales accréditées en République centrafricaine. Donc c'est un véritable problème. Tout le monde sait qu'en République centrafricaine de 2012, à ce jour, beaucoup de crimes et de guerres et de crimes, même contre l'humanité, sont commis en République centrafricaine, mais que là où la communauté internationale est lourdement représentée, les criminels de guerre se promènent librement. L'ironie du sort, c'est que la République centrafricaine, son armée est sous embargo. Elle n'est pas autorisée à mener des actions de nature à capturer ces criminels et à les traduire en justice. Donc voilà la situation dans laquelle nous trouvons, et je pense que c'est légitime que Amnesty International l'ait souligné dans son rapport.
Oui, par ailleurs, monsieur le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, la Cour pénale spéciale mise en place par les autorités de la transition de l'époque tarde à être opérationnelle. Est-ce qu'il y a-t-il des raisons particulières à cela?
Et apparemment, il n'y a pas de raison particulière parce que c'est depuis le 1er juin 2015 que la loi a été votée par le Conseil national de transition, assemblée de promulguée par les chefs d'État de la transition. Et aujourd'hui, plus d'un an et demi après la promulgation de cette loi, la Cour pénale spéciale traîne à voir le jour. Au départ, il y avait la recherche de financement, et puis maintenant on est arrivé pratiquement à l'appel des candidatures, et à la date d'aujourd'hui, on continue toujours à ne pas savoir quel nombre de personnes vont composer cette juridiction, qui sont déjà désignées, quel nombre de personnes viennent de la communauté internationale, etc. Donc et ça, c'est un véritable problème aussi.
Pour en revenir au rapport de Amnesty International, monsieur le Président, ce rapport indique qu'il est urgent de reconstruire le système judiciaire en Centrafrique. Est-ce votre avis?
Alors, nous avons toujours dit que c'était mieux d'apprendre à un homme à pêcher que de lui donner du poisson à manger tous les jours. Et nous avons pensé que, plutôt que de nous amener une autre justice, c'était même mieux que la justice centrafricaine qui avait fait ses preuves et donné ses lettres de noblesse à l'humanité, notamment en jugeant par un procès équitable Sa Majesté impériale Bokassa Ier, à l'occasion d'un procès que tout le monde a considéré comme ayant rempli les critères d'une justice équitable. Ce qu'il y avait à faire dans cette guerre, c'était premièrement de mettre fin à la guerre, deuxièmement de renforcer les capacités de la justice centrafricaine, notamment en leur dotant des moyens de leur travail, en leur garantissant la sécurité de leur action et en leur permettant de disposer d'une main forte, notamment son armée, sa police et sa gendarmerie, pour rechercher les grands criminels et les juger.
Joint à Bangui, Joseph Bindoumi, il est président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
En Guinée, le procès sur le massacre du 28 septembre 2009, survenu lors d'une manifestation contre le régime du capitaine Moussa Dadis Camara, aura lieu cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Cheikh Sako, après la décision de la justice sénégalaise d'extrader l'un des principaux mis en cause, Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de l'ancien chef de la junte guinéenne. Le ministre réagit d'abord à la décision de la chambre d'accusation au Sénégal. Il est interrogé par Abdourahman Dia.
Pour la justice guinéenne, c'est une satisfaction. C'est la preuve aussi de la bonne marche de la coopération judiciaire entre la République de Guinée et la République du Sénégal. Il vous souviendra qu'un mandat d'arrêt a été lancé depuis le mois d'avril 2010 et qu'il n'y a que tout récemment, il y a 2 mois et demi, que nous avons fait parvenir une commission rogatoire dès lors qu'on a situé M. Toumba Diakité à Dakar. Voilà, donc la procédure continue et les délais sont respectés. La chambre d'accusation donc a donné acte à la demande guinéenne et puis bon, le reste suivra.
Et justement, quelle est la prochaine étape?
Écoutez, la prochaine étape, c'est que le président sénégalais va prendre un décret au visa de l'arrêt de la chambre d'accusation de Dakar. Possible que la défense de M. Diakité, c'est leur droit, attaque ce décret auprès du Conseil d'État sénégalais. Tout ça va nous amener à un mois et demi, voire 2 mois, avant que la justice guinéenne ne fasse venir M. Diakité à Conakry.
Justement, l'avocat de M. Diakité a dit aux médias sénégalais qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son client. Qu'est-ce que vous avez à répondre?
ça c'est de la diversion. En même temps, c'est le droit de l'avocat de le dire. On a des prisonniers, on a eu des prisonniers militaires en Guinée pendant plusieurs années, notamment, il le sait. Et le problème de la sécurité, la Guinée va l'assumer.
Donc il n'a...
Et que la procédure sera ficelée, donc nous ferons venir M. Toumba Diakité en Guinée.
Donc une fois arrivé en Guinée, vous pensez que le dossier du massacre du 28 septembre va avancer plus rapidement maintenant?
Écoutez, nous nous acheminons vers la clôture de l'instruction. Donc après l'audition, il faut absolument que M. Toumba Diakité soit auditionné, soit entendu. Il faut qu'il dise sa part de vérité. Et je rappelle qu'il est présumé innocent. Et c'est important qu'il puisse dire sa part de vérité dans ce dossier. Après cela, on va s'acheminer vers la fin de l'instruction. Et dès après l'instruction, on va entamer la préparation du procès.
Vous pensez que le procès pourrait s'ouvrir dans combien de temps?
Je ne peux pas vous donner une date précise, mais ça sera en 2017. L'instruction va finir dans les 2 ou 3 mois à venir.
Le ministre de la Justice, Cheikh Sakho, il répondait aux questions d'Abdourahmane Dia.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Jour J-3 pour la CAN 2017 au Gabon. Nicolas Pino en parle avec Timothée Donangmaï.
Au sortir de l'aéroport et même dans le hall de l'aéroport, il y a quelques volontaires de l'organisation de la CAN 2017. On voit des officiels du comité d'organisation qui accueillent les journalistes. Au sortir de l'aéroport, quelques grands panneaux annonçant la grande fête qui commence. Mais dans le reste de la ville, on n'a pas vraiment l'impression que la CAN va bientôt débuter. Il n'y a pas cette fièvre vraiment de cette compétition. Les gens attribuent cette atmosphère un peu morose à la crise économique. Ils disent que bon, la situation est difficile, les gens n'ont pas d'argent, tout cela. D'autres parlent aussi de cette crise électorale qui, selon certains, n'a pas été complètement résolue. Et Nico, vous le savez, Jinping se considère comme le président élu. Donc, de facto, on dirait qu'il y a 2 présidents. En tout cas, c'est une situation qui affecte l'enthousiasme des Gabonais par rapport à cette CAN 2017, Nico.
Et qu'en est-il de l'appel au boycott qui avait été lancé par une partie de la société civile?
Alors, on en parle ici, mais bon, on verra bien. Ce sera le 14 qu'on verra si ce mot d'ordre est suivi ou pas. En tout cas, les gens de la société civile se disent déterminés à exhorter les Gabonais à ne pas aller au stade, à boycotter cette CAN 2017 pour exprimer leur mécontentement par rapport à la situation politique et économique dans ce pays.
Alors ce n'est pas la première fois que le Gabon accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en est-il des installations, Timothée?
Alors ce n'est pas la première fois et pourtant c'est au sprint que le Gabon a fini la préparation de cette CAN 2017. C'est lundi que le président Ali Bongo Ondimba, par exemple, a inauguré le stade de Port-Gentil, au stade de l'Amitié ici à Libreville. Lorsqu'on va là-bas, on voit encore quelques pots de peinture qui traînent à gauche à droite, preuve que le chantier a été fini vraiment à la dernière minute. Donc, c'est comme je le disais, l'expérience de l'autre fois n'a pas tellement aidé à préparer cette CAN, mais dans tous les cas, tout est fin prêt maintenant pour que la grande fête du football démarre le 14 février, ici à Libreville, Nico.
Timothée Donangmaï est notre envoyé spécial à Libreville.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagno. À la console, Nachouane Calais. Présentation, Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tuliesch.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et pour l'actualité en continu, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.